Vous écoutez IDFM. Il est 15h.
Forme et santé, Marie-Françoise Souchet.
Bonjour à tous, Marie-Françoise Souchet au micro, Alex à la technique. Eh bien, bienvenue dans l'émission Forme et Santé, mais aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais assurer l'émission. Je vais laisser la parole à un nouvel animateur qui vient nous rejoindre dans ce créneau de 15h à 16h où il est question de santé, de forme, de bien-être. Et j'ai le plaisir donc d'accueillir Dr Jacques Labesca. Bonjour docteur.
Bonjour, merci.
Eh bien, bienvenue sur les ondes d'IDFM Radio Anguin. Vous êtes médecin généraliste, mais avec une grande passion pour les médecines complémentaires. Vous êtes compétent en phytothérapie, aromathérapie, oligothérapie. Vous avez une formation d'ostéopathe aussi. Vous êtes très, adepte en faveur du développement durable, de l'écologie, de la protection de notre environnement. Donc, vous allez en fait nous proposer une fois par mois, et nous vous en remercions, une sorte de journal des médecines complémentaires à nos auditeurs.
Oui, savoir en quelque sorte si on peut se soigner ou du moins se garder en bonne santé, surtout conserver sa bonne forme avec des moyens naturels ou supposés naturels, enfin en tout cas des moyens simples qui ne sont pas toxiques, ce qui n'est pas contre la médecine classique bien évidemment, qui a toute sa place. Mais je pense que les deux médecines sont synergiques.
Donc, alors, on sera plus dans le domaine de la prévention, peut-être.
On sera dans le domaine de la prévention, des traitements, des troubles, et en même temps de l'environnement, parce que l'homme n'est rien si son environnement est perturbé. Donc voilà, je pense qu'il y a une incidence entre l'homme et son environnement et inversement. Et donc c'est pour ça qu'on essaiera à chaque fois de faire la part des choses entre le bien-être personnel et le bien-être général.
Alors avec des chroniques, plusieurs chroniques parfois dans l'heure, avec toujours un clin d'œil sur une plante, type de médecine complémentaire.
Oui, on essaiera à chaque fois de prendre une thématique à la fois nutrithérapie, parce que la première chose c'est de bien manger pour être en forme. Ensuite, on essaiera de développer des techniques médicales, parce qu'on en parle beaucoup des médecines complémentaires, et pas toujours très bien. C'est pour ça que c'est vraiment, je vous remercie de m'avoir invité.
Il y a de tout là-dedans, je crois qu'il faut faire un peu le tri aussi.
Il y a un peu tout et n'importe quoi. Et on guérit tout et n'importe quoi se peuvent être dit. Donc effectivement, je pense que c'est important. Donc on développera une technique médicale. Ensuite, on ira vers l'environnement. Et à la fin, je terminerai, parce que c'est un peu ma marotte, sur la plante du mois, à savoir quelle plante prendre pendant le mois, en attendant que je vous fasse la prochaine émission.
D'accord, donc une sorte de journal bien-être et médecine complémentaire, peut-on dire, adapté à la saison.
Tout à fait.
Avec la plante du mois, par exemple, là nous sommes en octobre, il va falloir se prémunir contre les premiers virus qui vont rattraper bien vite.
Si vous êtes d'accord pour cette première émission.
Alors pour cette première émission, comment allez-vous découper aujourd'hui?
Je vais vous proposer d'abord l'assiette. Effectivement, d'ailleurs, comment vous, enfin, vous apprendre, essayer de vous indiquer les grandes lignes pour essayer de bien manger. Donc, en ce sens-là, j'ai invité au micro Emmanuelle Chauvin, qui est diététicienne de Thalasso.com et qui, depuis 25 ans, exerce la diététique en centre Thalasso et qui connaît très bien son sujet. Donc, vous allez pouvoir découvrir cette interview. Ensuite, j'ai demandé à un sophrologue, Alain Lancelot, de nous expliquer ce que c'était que la sophrologie, comment ça se pratiquait et pour qui. Voilà. Et enfin, j'ai demandé, dans le cadre plus environnemental, à Philippe Boyer, qui est un apiculteur amateur et qui a écrit un très beau livre sur les abeilles sauvages, de nous indiquer en quoi les abeilles peuvent nous aider ou pas nous aider, qu'est-ce qu'il faut en faire, est-ce qu'il faut les côtoyer, pas les côtoyer, est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que c'est uniquement de la communication d'avoir sa ruche chez soi. Voilà. Et à la fin, je vous donnerai, parce que vous semblez curieuse, là, je vous donnerai la plante du bois qui, ce mois-ci, va être l'Echidacea, Echidacea purpurea, une plante qui nous vient d'Amérique du Nord.
Eh bien, vous nous direz tout à l'heure, en fin d'émission, mais c'est un beau programme qui vous attend tout de suite, chers auditeurs, qui nous êtes fidèles, et merci de nous suivre, hein, tous les jours de 15h à 16h, je vous rappelle. Donc, je vais vous céder le micro, docteur Jacques Labesca. À vous, docteur.
Merci, je vais essayer d'en faire bon usage. Hein.
Bonjour, Emmanuelle Chauvin. Vous êtes diététicienne au groupe Thalasso.com, en Vendée. Il fait beau, en fait, en Vendée, non?
Il fait moyennement beau.
Bon, alors, c'est pas pour ça qu'on vous appelle. Hein. On vous appelle, en fait, parce que vous êtes diététicienne et dans cette nouvelle émission, nous aimerions d'abord commencer par un thème. Hippocrate a dit, ton premier médicament sera ton assiette. Donc, notre assiette, qu'est-ce qu'on doit mettre dans notre assiette? Ou plutôt, que doit-on pas mettre dans notre assiette?
Eh bien, disons qu'il y a effectivement des priorités à avoir. Se dire toujours... Si j'ai faim dans la journée, c'est signe que mon alimentation n'est pas bonne à chacun de mes repas. Et ce qui va vous apporter un effet de satiété, ce sont les protéines. Alors bien sûr, on a eu le régime du camp qui est vraiment le fanatisme, on va dire, de la protéine. Mais avant tout, il faut quand même savoir qu'une base de protéines à chaque repas est essentielle pour être en forme toute la journée.
Alors c'est quoi les protéines ?
Les protéines viennent de plusieurs catégories d'aliments. Celles qui sont les plus connues sont bien sûr ce qu'on appelle les protéines carnées. Lorsqu'on parle de protéines carnées, généralement tout le monde pense à la viande, mais on classe dans les protéines carnées le poisson, les fruits de mer, la volaille, et puis tous les aliments dérivés, on va dire, des animaux. Vous avez aussi en gamme de protéines ce qu'on appelle les protéines lactées, les laitages, mais encore plus intéressant que les laitages, il y a les fromages, les bons fromages français, et les autres aussi.
Oui, donc si je vous ai compris, on mange des protéines, on mange pas de sucre du tout.
Ah non, du tout. Il faut avoir une bonne combinaison. La moitié des calories que nous devons manger dans la journée, en moyenne, ce sont les glucides qui vont les représenter. Et les glucides, il ne faut pas penser que ce sont que les sucres. Les glucides, c'est aussi les féculents, les céréales, mais ce sont les fruits, ce sont les légumes. Et il y a aussi des glucides dans les laitages, des glucides naturels dans les laitages. Peu, mais il y en a.
Et alors les graisses ?
Et les graisses, il faut en manger. Il faut en manger à peu près 30%. Donc finalement, si la moitié sont les glucides, 30% sont les matières grasses, les protéines représentent quand même la plus petite part en composition alimentaire. Pourtant, lorsqu'on fait des enquêtes alimentaires, donc ça c'est notre métier, les métiers de diététicien, c'est l'inspecteur de l'alimentation va vous poser plein de questions sur votre manière de manger. Et généralement, je dirais que depuis 25 ans que je travaille pour cette entreprise, eh bien 9 fois sur 10, les personnes pensent ne pas manger suffisamment de sucre. Pourtant, elles en mangent de manière cachée. Et finalement, ce sont les protéines qu'elles ne mangent pas assez.
Alors comment on sait justement que les sucres sont cachés? Je crois que vous avez développé des ateliers à apprendre à lire les étiquettes. C'est-à-dire que vous emmenez votre loupe chaque fois que vous allez au supermarché et vous regardez les étiquettes à la loupe.
Alors oui, à défaut de loupe, peut-être des lunettes tout simplement. Mais le but premier, c'est de se dire que depuis 2014, donc depuis l'année dernière, le mois de novembre l'année dernière, le 14 novembre exactement, la loi a changé dans les supermarchés. Ils sont tenus de vous indiquer les valeurs nutritionnelles sur les produits.
Ça veut dire quoi, ça? Moi, j'y comprends rien, là.
C'est-à-dire que lorsque vous lisez une étiquette, on va vous parler de calories globales. Que vous mangiez 10, 20, 100 ou 200 calories, ça c'est le moins important pour moi. De ces calories, il va falloir déterminer quelle va être la bonne proportion des protéines, ce qui va vous aider à ne plus avoir faim entre les repas. Vérifier qu'il n'y a pas trop de lipides. Lipides, ce sont les matières grasses. Et dans ces matières grasses, ce qui est acide gras saturé, mauvais pour votre taux de cholestérol et votre système cardiovasculaire. Et enfin, ce qui est le plus pernicieux, c'est la valeur de glucides. Cette fameuse valeur de glucides, elle regroupe tous les composants glucides d'un aliment, c'est-à-dire à la fois la fibre alimentaire du légume, à la fois le sucre naturel contenu dans les fruits, les glucides naturels contenus dans les laitages, les féculents, etc., mais aussi les cochonneries ajoutées, comme le sirop du glucose, les amidons modifiés, les maltodextrines, etc., qu'on va vous ajouter dans les produits industriels.
Bon, tout ça, c'est très technique, c'est même un peu trop technique, hein. Mais donc, je prends ma loupe ou je prends mes lunettes, je regarde une étiquette. Qu'est-ce que je regarde en premier et quelles sont les bonnes normes pour chaque leader, j'allais dire, de l'étiquette?
Première chose à regarder, c'est la liste d'ingrédients. Ça, c'est une obligation de chaque
qu'est-ce qu'il faut pas
fabricant.
Quel est l'ingrédient qu'il faut éviter, par exemple?
Quel est l'ingrédient qu'il faut éviter? Certains additifs, puisque tous les additifs ne sont pas des additifs de synthèse. Donc c'est là où c'est très technique et là où je vais le moins insister, moi, sur une lecture d'étiquette, parce que vous n'êtes pas tenu de connaître tous les additifs, tous les E100,
oui,
c'est des colorants.
Bon, alors on passe sur les additifs. Mais alors, voilà. Au niveau protéique, vous disiez qu'il fallait un taux de protéines.
Oui.
Quel est le taux optimal de protéines?
Alors, il n'y a pas de taux optimal. Ce qu'on est sûr de savoir, ça c'est ce que nous apprenons lorsque vous venez en cure chez nous, c'est qu'une femme, par exemple, va devoir manger tous les jours autant de grammes de protéines que de kilos qu'elle cherche à peser. Donc pour chaque personne que je vais emmener dans mon supermarché préféré, chacun va avoir un taux de protéines global à manger dans la journée.
Vous dites pour une femme, pour un homme c'est pas pareil?
Pour un homme c'est différent, l'homme est plus musclé, j'ai tendance à dire en blaguant que l'homme c'est lui qui doit sortir les poubelles. Il est plus musclé, il a le droit de manger plus de protéines. Donc, ce qui veut dire qu'on va multiplier le poids de la personne, le poids idéal de la personne, par 1,3.
D'accord. Et pour les sucres?
Et donc, pour les sucres, là, c'est 50% des calories totales. Donc là, c'est plus compliqué. Là, c'est plus à nous de faire un total. Si déjà la personne repère dans son supermarché des proportions, c'est-à-dire, par exemple, ça dépend des rayons, mais dans le rayon des laitages, par exemple, si on arrive à leur faire comprendre que la valeur de protéines de mon laitage doit normalement être au moins le double de la valeur en matière grasse, on est déjà sur un produit intéressant. Exemple, n'importe quel yaourt classique, on va dire, contiendra autant de protéines que de matières grasses. Je parle pour moi du vrai yaourt, puisque j'aime bien les vrais produits et non pas les produits allégés. Et un yaourt au lait entier va contenir aux alentours de 4% de protéines et quasiment 4% de matières grasses.
Et alors, pour terminer sur les graisses, alors?
Eh bien, si vous choisissez de prendre, par exemple, un petit Suisse à la place, eh bien, vous aurez sur un petit Suisse à 3% de matières grasses, obligatoirement 9% de protéines. Ça ne veut donc pas dire qu'il ne faut pas manger de matière grasse. Ce qu'il faut rechercher, c'est des proportions entre les protéines et les matières grasses, en ce qui concerne, par exemple, le produit laitier.
Eh bien, maintenant, je crois qu'on sait tout. Est-ce que je peux me permettre une dernière question? Vous allez manger quoi à midi?
Alors, ce midi, nous allons manger en entrée une petite salade de courgettes crues que je vais cuisiner avec un petit peu de crème et de curry. Ensuite, Je vais manger des restes, on est sur un milieu de semaine, nous avions cuisiné un poulet pour lundi, et donc lorsque vous mettez un produit cuisiné au réfrigérateur, il faut le manger dans les 48 heures qui suivent. Donc ce midi, nous allons finir le poulet, et j'ai cuisiné en parallèle un petit peu oignons, carottes, pommes de terre et tout ça aux herbes de Provence.
Eh bien, je crois qu'on peut souhaiter bon appétit à tout le monde. On a appris beaucoup de choses, et bien on a encore beaucoup de choses à apprendre, et je crois qu'on se permettra de vous réinviter. On rappelle que vous êtes diététicienne au groupe thalasso.com, et merci et bonne journée en Vendée.
Merci, vous de même.
Oui, ben maintenant nous allons faire une pause musicale et nous allons interviewer ensuite Alain Lancelot qui va nous parler de sophrologie.
Ça change de la radio.
Oui, bonjour Alain Lancelot, vous êtes sophrologue.
C'est tout à fait, spécialisé dans la gestion du stress.
Et alors, comment devient-on sophrologue ?
Alors écoutez, je pense qu'il n'y a pas un parcours particulier. Moi étant depuis plus de 20 ans dans le monde artistique et médiatique, j'ai eu envie de trouver une méthode qui me permettrait de gérer mon stress et mon trac pour passer à l'antenne, pour passer sur la scène. Et voilà, je me suis toujours intéressé au travail sur la conscience, le fait que l'on puisse soi-même ou se booster ou alors se freiner. Et j'ai trouvé une méthode qui permettait justement de travailler aussi bien sur le mental que sur le corps. Et pour moi, c'était la sophrologie qui m'a le plus convaincu de façon à pouvoir travailler sur ce stress déjà pour moi et après pour transmettre aux autres et permettre d'amener un bien-être.
Et alors, vous avez suivi quel cursus, alors, en fait ?
Alors écoutez, j'ai suivi tous les cursus possibles. Et, étant donné que j'ai une base journalistique, je voulais comprendre pourquoi il y avait ce qu'on appelle la sophrologie caïssétienne et la sophrologie dite ouverte. Oula. Donc j'ai fait, voilà, c'est tout résumé. Effectivement, Caicedo, qui est le neuropsychiatre qui a créé la sophrologie en 1960, a protégé en fait sa méthode en appelant cela une sophrologie caïssédienne. Donc j'ai fait mes 2 ans de sophrologie caïssédienne et puis après j'avais j'ai fait une école qui m'a permis d'avoir le RNCP, puisque maintenant, depuis qu'il y a tous ces problèmes malheureusement dans les entreprises et notamment au niveau des risques psychosociaux, la sophrologie est de plus en plus reconnue. Et reconnu notamment, enfin certaines études sont reconnues par l'État, donc pour avoir le RNCP, c'est-à-dire la certification professionnelle, puisque les entreprises maintenant font beaucoup appel à ces techniques, alors, sophrologie ou d'autres, pour pouvoir justement gérer ce stress au quotidien.
Alors donc, en dehors des entreprises, on a compris que vous faisiez de la formation à l'entreprise, de la gestion du stress, mais à qui peut s'adresser la sophrologie ?
Alors la sophrologie s'adresse à toutes les personnes qui ont besoin à un moment de leur vie de faire le lien entre le corps et l'esprit. C'est ça l'idée de la sophrologie, c'est l'harmonie entre le corps et l'esprit. Alors ça peut être par exemple, puisqu'on travaille sur la respiration également, c'est tout à fait adapté pour les futures mamans. C'est souvent utilisé d'ailleurs en pédiatrie.
Pour les futures mamans, ça leur apporte quoi, par exemple ? Ça les aide à accoucher ? Ça les aide à assumer leur grossesse ?
Tout à fait. Alors, ça les aide déjà à éviter, à apprendre leur nouveau corps, parce que si des mamans nous entendent, elles savent bien que le corps change et qu'il faut déjà accepter ce nouveau corps, accepter le bébé à l'intérieur du ventre, hein, pas faire un déni de grossesse comme des fois on l'entend. Tout cela, c'est quelque chose de mental. Donc, la sophrologie va permettre de travailler sur cette modification du corps. Après, avec un travail sur la respiration, ça va permettre de gérer également la douleur qui est d'enfanter. Et puis, également, ça va aussi permettre d'imaginer, en fait, puisque le cerveau ne fait pas la différence entre les choses vécues et les choses imaginées, si on imagine positivement un événement heureux, mais douloureux comme l'accouchement, vous allez mieux le vivre. Donc, ne pas être stressé avant d'accoucher.
Et alors, en dehors de la grossesse, est-ce qu'il y a des indications qui sont vraiment top pour la sophrologie ? À qui vous pourriez la conseiller ?
Alors, je le conseille à tous les étudiants. Par exemple, pour gérer que ça soit le stress des examens, mais également pour éviter de tomber dans un épuisement, parce qu'on sait très bien que maintenant les étudiants sont parfois en souffrance, et il y a eu pas mal de dernières études qui l'ont montré, la sophrologie leur permet de mieux travailler, de mieux se concentrer. Pour les enfants qui peuvent être également en hyperactivité, de façon à se recentrer sur soi-même. Des personnes qui voudraient également peut-être retrouver un sens à leur travail, à leur vie. Ça arrive beaucoup en ce moment, dans notre société, où des fois on se dit « mais pourquoi je fais ce travail-là » La sophrologie va permettre en fait de faire ce lien entre le corps et l'esprit.
Alors on a beaucoup parlé de sophrologie, mais en fait ça se passe comment ?
Alors, la sophrologie, quand vous allez voir un sophrologue, une séance dure à une heure. Déjà, il y a un moment où vous allez expliquer pourquoi vous êtes là, pourquoi la sophrologie peut vous aider, quelle est votre demande. Donc, c'est ce qu'on appelle l'anamnèse au début, donc c'est un échange. Après, on va travailler avec des exercices qu'on appelle des RD hein, dans le terme sophrologique, c'est-à-dire des respirations, des relaxations dynamiques, c'est-à-dire des exercices du corps, des exercices que Caicedo a ramenés d'Inde, du Japon, du Tibet, et qu'il a adapté à notre civilisation pour lâcher avec des contractions et des relâchements musculaires. Donc physiquement, vous allez gérer le stress, vous allez retrouver un bien-être au quotidien, même pendant la séance. Et puis, troisième partie, nous allons travailler en visualisation positive. C'est-à-dire qu'on va vous placer dans un état sophroliminal. Alors, qu'est-ce que l'état sophroliminal ? Retrouver les ondes alpha. Vous savez comment on dit ?
C'est quoi l'onde alpha ?
C'est-à-dire qu'on va vous détendre le corps.
Mais je ne connais pas mes ondes alpha. Comment je les retrouve, mes ondes alpha ?
Alors, c'est naturel. À chaque fois que vous vous endormez, vous êtes entre le moment d'éveil et le moment de sommeil, vous êtes toujours cette notion de zone alpha. Vous savez, lorsque vous allez vous endormir, si vous avez quelqu'un à côté de vous qui vous parle, vous ne pouvez pas le répondre parce que vous êtes déjà fatigué, mais par contre, vous avez enregistré la question et le lendemain, vous lui dites, mais dis donc, tu m'as parlé de telle et telle chose.
D'accord.
Par contre, sur le moment, vous n'étiez plus en conscience. Donc, le corps était totalement reposé. Et donc, ça permet, en fait, dans cet état-là, le corps repose naturellement sur le support, sur le fauteuil. Et là, ça va permettre d'aller travailler directement ce qu'on appelle en conscience modifiée, en pleine conscience.
C'est-à-dire que vous travaillez comment? Alors, qu'est-ce que vous faites exactement, alors?
Bien, c'est-à-dire, comme je vous dis, on va travailler en visualisation, l'importance de la visualisation, mais positive. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui va passer j'ai pris l'exemple des étudiants, par exemple, qui va passer un examen, le bac. Souvent, avant le bac, il y a une recrudescence de personnes qui vont voir les sophrologues. Pourquoi? Parce qu'on va vous faire visualiser la réussite de votre examen. On va vous faire visualiser l'avant, le pendant, l'après. Et comme le cerveau va créer cette image, lorsque vous allez arriver devant l'examen, vous allez avoir beaucoup moins de montée d'adrénaline et de stress, beaucoup moins d'hormones du stress qui vont monter, puisque au niveau du mental, vous connaissez déjà la situation. Vous avez déjà imaginé la situation. Donc, ça va vous permettre de gérer beaucoup mieux le stress et de réussir cet examen. Alors, c'est la même chose pour les prises de parole. Moi, je travaille beaucoup avec des artistes.
Donc, on n'a pas besoin de travailler, en fait. Si on fait de la sophrologie, on réussit ces examens.
Ah bah évidemment que la meilleure chose, c'est avant tout. Mais oui,
quels sont les rapports?
Mais c'est l'entraînement. Ceci étant, vous avez raison. Il y a deux choses. Ce n'est pas une magie. Hein. C'est purement physique et mécanique. L'entraînement est quelque chose de très important, mais exactement comme un entraînement avant un examen.
Et alors, quels sont les rapports entre l'hypnose et la sophrologie?
Pardon, je vous ai pas entendu.
Quels sont les rapports, les connexions entre l'hypnose et la sophrologie?
Alors, il faut savoir que le professeur Caicedo, donc neuropsychiatre qui a mis en place la sophrologie, a d'abord en 58 ouvert une école d'hypnose.
Oui.
Et faut replacer en fait dans le temps, hein, en 58, l'hypnose c'était quelque chose d'ésotérique. Et lui qui était neuropsychiatre voulait se détacher de ce côté non sérieux à l'époque. Et donc il a mis en place en fait, en travaillant sur la conscience, il a mis en place cette technique qui, pour faire le lien entre l'esprit et le corps, en détendant le corps et en allant également chercher des techniques, je le disais, en Orient, pour notamment pouvoir relâcher mécaniquement le corps. Lui, il part du principe que le corps est aussi important que le mental et qu'il est important de travailler aussi bien le mental que le corps, faire la jonction entre les deux.
D'accord. Ben écoutez, je crois qu'on en sait beaucoup plus. On va vous réinviter parce que je crois que vous êtes l'auteur d'un livre sur le burn-out et la sophrologie aux éditions Très Daniel. Donc nous serons très vite avec vous à nouveau. Et merci déjà et bonne journée.
Eh bien écoutez, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup à vous de votre accueil. Et puis merci aux auditeurs en espérant que ça a un peu ouvert le champ de connaissances sur la sophrologie. Merci beaucoup.
Merci. Une petite pause musicale avant d'entendre Philippe Boyer qui est apiculteur et qui va nous parler d'abeilles.
FM, 98 FM, la plus francilienne des radios.
La plus francilienne des radios.
Sur 98 FM.
Oui, bonjour Philippe Boyer. C'est pas votre métier, apiculteur, pourtant.
Bonjour. Non, l'apiculture, non, c'est pas mon métier. Mon métier, c'est d'être caméraman. Et mon rapport avec les abeilles va plutôt sur les abeilles sauvages, plutôt que l'apiculture.
Et alors, comment vous avez trouvé les abeilles sauvages dans votre jardin ?
Alors, les abeilles sauvages. Jeune, j'ai lu Fabre. Voilà, Jean-Yves Fabre. Et j'ai eu vent de ces espèces d'abeilles. Et puis ensuite, je me suis intéressé un petit peu. J'avais fait l'école de l'apiculture au Luxembourg, à Paris. Et puis, j'avais envie d'avoir une ruche, mais bon, mon jardin ne me permettait pas d'avoir une ruche. Étant trop petit, j'avais des enfants, c'était un petit peu difficile. Donc, il y a une vingtaine d'années, j'ai mis des petits nichoirs à abeilles sauvages. C'est comme ça que j'ai découvert ce...
C'est quoi un nichoir à abeilles sauvages?
Alors, ces nichoirs, ce sont des bois que l'on perce avec une perceuse, donc des bois de...
Comme des bambous, en quelque sorte.
Oui, des bambous, des sureaux évidés, ou alors des morceaux, j'ai mis des morceaux de chêne avec des galeries que j'ai forées, avec des mèches de 6, 7, 8 mm.
Ça n'a rien à voir avec l'hôtel à insectes qu'on essaie de promouvoir un peu partout.
Non, parce que, en fait, bon, au début, je ne connaissais pas beaucoup tout cela, donc voilà, j'ai commencé un petit peu naïvement. Et puis, c'est vrai que depuis quelques années, il y a ces nichoirs à insectes que l'on voit un petit peu partout. Et je considère que, en fait, on s'éloigne un petit peu de la nature sauvage des abeilles. Parce qu'un tel regroupement, voilà, déjà, je trouve ça pas très, très esthétique. Esthétiquement, je trouve ça très laid, pour dire. Et je préfère voilà, quelques petits bois, quelques petites galeries. Je trouve qu'on se rapproche vraiment...
Alors, la laideur, c'est pas votre point, parce que votre livre a de très, très belles photos, et je peux le recommander aux auditeurs. Et parce qu'en plus, vous prenez les photos vous-même des abeilles sauvages.
Oui,
c'est ça qui est merveilleux.
Depuis
que vous les photographiez, enfin, il n'y a pas de cause à effet, bien sûr, il y a de bois en bois, dites-vous, dans le texte.
Oui, c'est-à-dire que j'ai pu observer donc chez moi dans mon jardin depuis une vingtaine d'années et je vois que chaque année il y a de moins en moins d'espèces.
Il y a combien d'espèces d'abeilles sauvages ?
En France, on estime 800 à 1000 espèces et 20 000 dans le monde.
Et alors comment reconnaît-on une abeille sauvage d'une abeille domestique, j'allais dire ?
Alors c'est surtout à sa forme. Bon, ça après il faut un petit peu d'expérience, c'est-à-dire que si on les observe un petit peu, on va se rendre compte que les abeilles sauvages ou les abeilles solitaires plutôt sont souvent beaucoup plus poilues, même si c'est pas le cas pour toutes les espèces. Et en fait c'est leur mode de vie, c'est-à-dire que l'abeille domestique, l'abeille à miel, elle vit maintenant dans les ruches puisqu'on en trouve pratiquement plus à l'état sauvage. Les abeilles solitaires, elles, vivent essentiellement pour 80% dans la terre.
Et alors, elles disparaissent
dans la terre, ou dans les galeries dans du bois.
Elles disparaissent, mais est-ce que c'est dû à la disparition de leur habitat, ou est-ce que c'est dû à l'emploi de pesticides, herbicides, enfin, tout produit toxique, ou est-ce que c'est simplement normal ?
Ah non, ce n'est pas normal, mais c'est... Oui, la chimie, les produits phytosanitaires, les insecticides, pesticides, et aussi l'habitat, parce que elles aiment les talus sableux, les clairières, etc. Et il y en a de moins en moins. Elles sont beaucoup de... La lande, par exemple, eh bien, c'est quelque chose qui tend à disparaître dans notre pays. C'est-à-dire que soit ce sont des cultures, soit c'est réservé à l'habitat, ou ce sont des forêts que l'on plante, mais des zones, voyez, comme la lande, ça existe de moins en moins.
Et est-ce que les abeilles sauvages ont le même rôle, la même fonction dans la nature que l'abeille domestique ?
Oui, elles sont complémentaires, c'est-à-dire que les abeilles sauvages, elles sont des pollinatrices. Par exemple, le cerisier, au mois de mars, quand il fleurit, souvent les journées sont froides. Et bien, j'ai pu voir que ce sont les abeilles sauvages, en l'occurrence les osmies, qui sont les pollinisatrices du cerisier.
Donc si on met, comme on le fait maintenant, des ruches dans toutes les villes ou sur tous les toits, hein, y a qu'à voir le toit de l'Opéra, bien connu, qui donne le meilleur miel de Paris, paraît-il, ça ne remplace pas les abeilles sauvages.
Non.
Est-ce qu'il n'y a pas compétition même?
Il y a... Oui, je pense qu'à certains... j'ai pu voir qu'il y avait 500 ruches à Paris. Et je trouve que c'est considérable. Alors que il y a aussi beaucoup d'espèces d'abeilles solitaires ou abeilles sauvages dans Paris également, et je pense qu'il y a une compétition par rapport aux fleurs, c'est-à-dire que le nectar des fleurs, il n'est pas inépuisable, c'est-à-dire que chaque fois qu'une abeille butine une fleur, eh bien, il faut attendre un petit peu que la fleur sécrète de nouveau du nectar pour qu'elle puisse nourrir l'abeille. Donc, c'est vrai que...
Donc, vous êtes plutôt contre la prolifération des ruches urbaines?
C'est peut-être contre, mais disons qu'il y a un juste équilibre à respecter, je pense. Et je pense qu'un trop grand nombre de ruches, eh bien, c'est pas forcément même pour les abeilles domestiques, c'est-à-dire que beaucoup trop de promiscuité, beaucoup trop d'abeilles, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour leur vie.
D'autant plus que la ruche est-elle l'habitat normal de l'abeille?
Ah ça non. Non. L'habitat normal, ce sont les arbres creux, c'est plutôt un habitat rond. Voilà, et disons de dimensions plus petites. Les ruches, suivant les ruches, parce que vous savez qu'il y a plusieurs sortes de ruches, et les plus utilisées sont, il me semble, peut-être un peu grandes et de format carré, ce qui n'est pas forcément l'habitat naturel de l'abeille.
Oui. Donc, quand les auditeurs nous interrogent en nous disant « Est-ce que je dois pas mettre une ruche dans mon jardin en pensant faire bien ?» Vous leur répondez quoi ?
Eh bien, je réponds que c'est une belle découverte. C'est vrai que d'avoir une ruche, c'est très intéressant. Peut-être faire le choix d'une ruche comme une ruche varée, une ruche un petit peu plus petite, voilà, qui se conduit d'une façon plus naturelle. Et puis d'en avoir une, c'est bien, peut-être deux, mais après, peut-être 15 ruches, c'est beaucoup, dans la mesure où on vit dans un espace urbain.
Oui, et que pensez-vous justement du fait que l'abeille serait le baromètre de l'environnement et du fait qu'elle disparaisse dans les campagnes pour réapparaître en nombre dans les villes?
Disons que c'est pas qu'elle réapparaisse, c'est que, voilà, on met des ruches dans les villes et elles sont éloignées des produits de l'agriculture, vous voyez, des produits chimiques. Donc c'est vrai qu'elles ont tendance à vivre mieux de ce point de vue-là.
Oui. Et est-ce que tous les matins vous prenez du miel?
Tous les matins, oui.
Pour donc, quelle vertu?
Disons que oui, j'aime le miel, j'aime le pollen. La propolis, voilà, j'en consomme, mais disons que voilà, l'apiculture, c'est quelque chose. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'apiculture et que, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, il y a un juste équilibre à retrouver, il me semble.
Eh bien écoutez, je crois que nous serons obligés de vous réinviter, mais je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre aux éditions Hulbert qui s'appelle « Les abeilles sauvages ». Abeilles sauvages, pardon. Et qui a surtout de très très belles photos et un très beau texte. Nous vous remercions et à bientôt.
C'est moi qui vous remercie.
Bonne fin de journée, merci.
Bonne fin de journée, au revoir.
en Ile-de-France.
Écoutez IDFM
sur 98 FM. IDFM,
toujours plus proche de vous.
Oui, eh ben, vous avez vu, hein, il fait pas beau, il fait froid, les virus attaquent, les brouillards sont bas, je crois qu'on est prêt à être infecté. Eh bien non, si vous nous avez écouté, merci de nous avoir écouté jusqu'au bout, eh bien vous allez savoir la parade, vous allez connaître la parade que vous allez pouvoir prendre, une parade naturelle à base de plantes, pour éviter tous ces frimas, pour éviter tous ces problèmes. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'une plante, la plante du mois de novembre, qui est l'échidacée. Alors l'échidacée, pourquoi elle porte son nom déjà? Parce que en grec, elle a le nom du hérisson, et parce que la forme de son cœur est en forme de hérisson. Voilà, Echidacea purpurea. D'ailleurs, on la trouve très couramment dans les jardineries. Hein. Donc, elle est médicinale, et elle est médicinale pourquoi? Eh ben, c'est une plante qui nous vient en fait des États-Unis. Des plaines américaines, et les Indiens, souvent les plantes, bah c'était la première médecine, hein, puisqu'on n'avait que cela, et les Indiens utilisaient l'échidacée, leurs chamans utilisaient l'échidacée pour lutter contre les infections éventuellement résultant de blessures, bah, de flèches ou de bisons, enfin de tout ce qui pouvait s'infecter dans la plaine, et ils avaient remarqué que l'infusion d'échidacée était remarquable. Donc, ce qui est valable pour les Indiens, eh ben pourquoi on ne l'essaierait pas? Alors, vous allez me dire, comment ça se prend? Eh ben, ça se prend sous forme d'infusion. Le plus simple, d'ailleurs, pour les plantes, alors on va faire un petit débat technique là, juste parce que c'est une première, donc je vais vous dire, l'infusion, c'est de laisser la plante dans de l'eau qui frémit pendant 10 minutes, 15 minutes, comme un thé, en enlevant du feu, en l'ôtant du feu, donc on la laisse infuser, ensuite on la passe et on la boit. C'est valable pour toutes les parties aériennes des plantes, c'est-à-dire les tiges, les feuilles, les fleurs. Contrairement à la décoction, c'est de laisser une plante 10 minutes dans l'eau, bouillir, alors là, et c'est valable pour toutes les parties ligneuses de la plante, c'est-à-dire aussi bien l'écorce que le tronc que les racines. Voilà, donc là, c'est une infusion. Donc l'échidacée, on prend la plante, on la fait infuser 10 minutes dans l'eau, et on en prend 2 à 3 tasses par jour. En faisant une cure d'un mois, eh bien avec ça, on n'aura pas de problème de d'infection de tout l'hiver. Alors, j'entends déjà les auditeurs nous dire « Oui, mais les plantes, il faut se les infuser. » Ben oui, justement, je viens de le dire. Ben oui, non, mais... Ben oui, d'accord. Ok, allez, je vous le cède. On peut en trouver sous forme de gélules. On la trouve sous forme de gélules. Et à ce moment-là, on respecte la posologie qui est recommandée par le fabricant. C'est en général 1 à 2 gélules par jour. En cure, là encore, de 3 semaines minimum, voire un mois et demi. Donc, vous faites votre infusion d'échidacée maintenant, vous prenez vos gélules d'échidacée et vous n'aurez pas d'infection de tout l'hiver. Voilà. Eh ben, écoutez, merci pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout, je pense. Vous avez été courageux pour cette première. Nous acceptons vos retours, hein. N'hésitez pas à nous questionner si vous avez des choses qui ne vous ont pas plu ou qui ne vous plaisent pas. En tout cas, si vous le souhaitez toujours, eh bien, nous referons une émission le mois prochain. En attendant, merci de votre écoute et puis à bientôt sur IDFM Anguin.
Forme et santé, Marie-Françoise Souchet.
Radio Anguin, IDFM, ça change de la radio.